Vous écoutez France Culture.
Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une émission que vous pourrez réécouter, podcaster et commenter sur notre site internet franceculture.fr. Et c'est ce qui s'appelle souffler le chaud et le froid. Avant-hier, intervenant à propos du programme nucléaire iranien, le président israélien Shimon Peres évoquait la possibilité d'une attaque militaire contre l'Iran, considérant cette possibilité comme plus proche qu'une option diplomatique. Ce matin, changement de ton, cette fois c'est Ehud Barak, le ministre de la Défense, qui parle. Il est irresponsable et démagogique d'effrayer l'opinion, nous ne voulons pas de la guerre. Ces déclarations, sans doute moins contradictoires qu'il n'y paraît, n'ont pas été faites au hasard. Elles interviennent alors que l'Agence internationale de l'énergie atomique s'apprête à publier un nouveau rapport consacré à l'Iran. Rapport qui, selon des fuites, permettrait de conclure que Téhéran a bien l'intention de se doter de l'arme nucléaire. Ce qui est indéniable, c'est que les dirigeants iraniens s'intéressent depuis longtemps à cette technologie, ainsi le Shah, dans les années 60, mais ce n'est que depuis le tournant des années 2000 que cet intérêt, en partie concrétisé dans les faits, est perçu comme une véritable menace pour la paix dans la région et pour la paix dans le monde. Depuis, à intervalles plus ou moins réguliers, il est question de sanctions internationales contre le régime des Mollahs, pas toujours appliquées ces sanctions et pas très efficaces si l'on en juge par la situation actuelle. Au point qu'on peut se demander si elles ont la moindre utilité, sauf à considérer que la pression internationale qui s'exerce depuis plusieurs années contre l'Iran poursuit d'autres objectifs. Alors à quoi servent les menaces contre l'Iran? C'est notre sujet du jour. Et pour en parler, je reçois ce soir Freddy Etan. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes diplomate, ancien ambassadeur d'Israël en Mauritanie. Vous passez par Paris pour quelques jours. On profite de votre présence ici. Vous êtes également alors chargé des affaires européennes au CAP de Jérusalem, le Centre des Affaires Publiques et de l'État. On pourrait dire que c'est une sorte de un think tank sur les questions géopolitiques et stratégiques. Et vous êtes par ailleurs journaliste. Vous avez un long passé de journaliste et vous avez notamment publié des biographies de Benjamin Netanyahou et de Shimon Peres. Pour discuter avec vous, Alain Grèche, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste, directeur adjoint du Monde diplomatique. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages sur le Moyen-Orient. J'en citerai deux, Les 100 clés du Proche-Orient, avec Dominique Vidal, qui a été publié en poche chez Pluriel cette année, et puis l'an dernier aux éditions Les Liens qui Libèrent, De quoi la Palestine est-elle le nom? Et puis troisième invité, Pierre Conessa, bonsoir.
Bonsoir.
Enseignant à Sciences Po, ancien directeur adjoint de la délégation aux affaires stratégiques du ministère de la Défense. Vous avez publié très récemment, vous étiez d'ailleurs venu nous en parler, La fabrication de l'ennemi chez Robert Laffont. Alors avant de parler des menaces de sanctions contre l'Iran, j'aimerais qu'on interroge la réalité de la menace iranienne. Pierre connaît ça d'abord. Est-ce qu'on peut affirmer avec certitude que le régime iranien a bien l'intention de se doter de l'arme nucléaire?
Pour moi, ça ne fait aucun doute, mais ce sur quoi je voudrais m'attarder deux minutes, c'est les raisons pour lesquelles l'Iran veut absolument se doter de l'arme nucléaire. Cette affaire du nucléaire iranien est une partie de poker menteur. Hein. Chacun ment avec vraiment le plus grand sang-froid sur ce sujet. Prenons le cas de l'Iran. L'Iran, depuis 60 ans, a le malheur d'avoir du pétrole. Ça fait 60 ans que les Occidentaux s'occupent des affaires iraniennes, depuis le coup d'État contre Mossadegh organisé par la CIA, qui donne d'ailleurs l'occasion d'une redistribution des avoirs pétroliers entre les Britanniques vers les Américains. 25 ans de dictature du Shah, une police politique qui s'appelait la SAVAK, qui était aussi efficace que les passes d'Aran pour assassiner des opposants à l'étranger. Police politique, prison d'Evin, qui va être recyclée ensuite par le régime islamique.
Là, vous remontez, ou un Pierre connaît ça pour répondre à la question.
Non, parce que ça constitue l'arrière-fond, si vous voulez, culturel de l'Iran. Et puis ensuite, dès le début de la révolution islamique, l'attaque par l'Irak, soutenue par l'ensemble de la communauté internationale, c'est le premier cas dans l'histoire où on soutient l'agresseur et pas l'agressé. Et on met sous sanction même l'agressé.
Il y a eu 1 million de tués, de morts dans cette guerre.
Absolument.
Faut le
rappeler. C'est
Freddy Etan qu'on vient d'entendre.
C'est une cicatrice analogue à celle de la guerre de 14 pour la France. Comment voulez-vous qu'un homme d'État iranien considère que des garanties internationales vont garantir la sécurité de ce pays? Voilà, c'est tout.
Donc vous êtes en train de dire, Pierre connaît ça, il est légitime pour l'Iran de vouloir se doter de l'arme nucléaire, Freddy Etan.
Écoutez, les problèmes, les menaces de l'Iran de se doter de l'arme nucléaire datent très exactement depuis la première centrale nucléaire que les Russes ont donnée à l'Iran. Et cela remonte à 1996. En 1996, Israël était le fer de lance dans cette option menaçante, non seulement la région, mais la paix dans le monde. Pour deux raisons principales. D'abord, il s'agit, effectivement, quand on parle de froideur ou quand on parle de détente, et quand il y a eu la guerre froide entre les deux superpuissances, il n'y a jamais eu de menace de l'Union soviétique de détruire un autre État par l'arme nucléaire. Ça, il faut le dire, il faut le rappeler. Deuxièmement, ce qui était important, c'est que la dissuasion a joué un rôle très important. Et par contre, nous avons aujourd'hui un régime, vous l'avez mentionné, ce sont des mollahs, ce sont des ayatollahs, que la religion est la raison d'être et non pas la politique. Donc il faut faire très attention si ce régime pourrait non seulement avoir la bombe atomique, mais aussi avoir des fusées nucléaires, à ogive nucléaire ou chimique.
Alors, Freddy Etan, on va entendre Alain Grèche dans un instant, mais puisque vous avez fait remonter cette montée de tension à 1996, moi, je voudrais vous faire entendre notre archive INA du jour. C'est assez court, vous verrez. Ça remonte à mai 1995. Écoutez comment on parlait déjà de ce qu'on appelait déjà la menace nucléaire iranienne.
L'Iran a l'intention de construire une dizaine de centrales nucléaires d'ici 20 ans. C'est le responsable des programmes nucléaires iraniens qui l'a dit ce matin dans une interview publiée par le New York Times. Mais contrairement à ce que pensent les États-Unis, ce même responsable prétend que son pays n'a pas l'intention de se doter de l'arme atomique. À Washington, Philippe Reltier.
Le chef du programme iranien rejette en bloc les preuves accumulées par les services de renseignement américains selon lesquelles l'Institut Sharif de Téhéran achète de la technologie pour faire du plutonium. Il n'a jamais été question non plus, selon lui, d'acheter à la Russie une centrifugeuse à gaz. Le président Clinton a appelé la Russie à suspendre le commerce du nucléaire civil et militaire avec l'Iran, car il ne voit pas pour quelle autre raison, sinon la bombe, les Iraniens aux ressources pétrolières illimitées voudraient qu'un cinquième de leur énergie provienne du nucléaire.
Alors on voit que cette question ne date pas d'hier. Alain Grèche, question purement naïve, et puis je poserai la même ensuite à Freddy Etan. En quoi est-ce que c'est une menace, si c'en est une, que l'Iran se dote de l'arme nucléaire? Et c'est une menace pour qui?
D'abord, il faut dire que cette menace est agitée depuis bien avant. En 92, la Chambre des députés américains fait un rapport disant que l'Iran aura la bombe à la fin de l'année. Et depuis, il y a tous les ans des rapports nous disant les Iraniens vont avoir la bombe l'année prochaine. Il y a M. Peres qui a fait une déclaration en 96, il était alors Premier ministre. Il dit dans 4 ans, les Iraniens auront la bombe. Donc c'est une menace qui est agitée de manière permanente.
Et qui menace qui?
Deuxièmement, je crois que c'est absolument faux que les Iraniens aient menacé d'utiliser l'arme atomique contre l'Iran, contre l'Israël. C'est une invention. Les Iraniens ont dit, ils ont tort, mais ils ont dit Israël est amené à disparaître. Mais c'était le discours de tout le monde arabe pendant des années.
Ça ne nous prenons les discussions, les allocutions, les diatribes, si vous voulez, des Iraniens au sérieux,
oui.
Et pas à la légère.
Non, mais moi
quand
aussi.
Quand on menace, M. Grèche, on ne menace pas.
Il a dit que s'il était attaqué, il riposterait. Et ils ont dit qu'Israël.
Aujourd'hui, il y a quand même un fameux discours d'Ahmadinejad, je crois que c'était en 2005, qui disait Israël doit être rayé de la carte. Alors, peu importe à la limite les moyens, mais enfin, il y avait quand même une intention. Alain Grèche. Et ensuite, Freddy Etan. Essayons en tout cas de bien répartir la parole pour qu'on s'entende tous.
Deuxièmement, c'est-à-dire, c'est toujours facile de dire les autres, ils sont irrationnels. Je veux dire, moi, je dis que les dirigeants israéliens qui veulent que Israël soit un État juif, c'est-à-dire de fait un État religieux, sont aussi irrationnels. Le seul État qui, dans la région, est menacé réellement d'utiliser la bombe et envisagé de le faire, c'est Israël en 1973. Donc, moi, je ne fais pas plus confiance au ministre des Affaires étrangères israélien, qui est un fasciste qu'on considérerait dans n'importe quel État normal, démocratique, comme un fasciste, comme plus rationnel que les dirigeants iraniens. Donc il y a effectivement, comme a dit Pierre, un jeu de poker menteur entre les deux. Il y a deux puissances qui veulent s'affirmer sur la scène. Et bon, voilà, je veux dire, on est dans une situation difficile. Mais c'est vrai que les menaces aujourd'hui contre l'Iran ont plutôt tendance à aggraver la situation.
Bon, vous mettez quand même au même niveau une dictature et une démocratie. Freddy Etten, je vous laisse répondre.
Mais écoutez, vos expressions et vos titres, même au chef de la diplomatie israélienne qui a été élu au suffrage universel.
Mais un fasciste peut être élu au suffrage universel, malheureusement.
Non, mais très bien. Et vous savez très bien que dans le contexte que nous connaissons, vous savez, dans ces conditions-là, vous prenez parti dans un contexte beaucoup plus compliqué. Je vous comprends, vous êtes un spécialiste. Et ça, vous pouvez le dire. Mais ne prenez pas parti sur le plan idéologique. Celui-ci est mauvais, celui-ci est bon. Là, un fasciste, n'est pas fasciste.
Non, j'ai jamais vous dit êtes que l'Iran
4000,
était bien.
Vous êtes à 4000 kilomètres d'Israël. Vous ne vivez pas en Israël. Vous ne vivez pas dans cette région. Moi, je vis dans cette région.
Alors, Freddy Etten, alors dites-nous justement, comment elle est vécue, cette menace, puisqu'elle est vécue comme telle, par les Israéliens? Est-ce que, véritablement, on peut imaginer que les Iraniens se servent de l'arme atomique pour détruire Israël? Est-ce que c'est pas plus inimaginable, ou est-ce que c'est pas autant inimaginable que le fait de se dire l'armée israélienne va intervenir militairement?
Écoutez, on n'est pas les premiers, et la menace iranienne n'est pas une menace directe contre Israël, c'est la menace contre la paix du monde. La preuve, c'est que la France, fer de lance pour les sanctions contre l'Iran, c'est pas Israël. Obama, les Allemands et toute la communauté internationale, le Conseil de sécurité a pris des dispositions et des sanctions sévères, paralysantes contre l'Iran. Donc c'est pas seulement Israël. Vous pointez du doigt Israël à chaque fois.
Non, Israël, personne ne pointe du doigt Israël. Israël, hein, on pose des questions.
Israël vit dans l'angoisse. Non seulement depuis 48, mais vit dans une situation où un pays démocratique est entouré dans un environnement hostile, et aujourd'hui, on le menace quotidiennement. Reprenez, moi, je lis chaque fois, et je peux lire les discours en arabe comme en français, et comme en hébreu ou comme en anglais. Quand on parle vers une population, et c'est là la gravité, la population iranienne, on ne peut pas me contredire, est d'accord pour le projet nucléaire. C'est-à-dire, il n'y a pas d'opposition au projet nucléaire iranien. Et c'est là toute la différence.
Mais pourquoi ?
Et c'est là la différence.
Pierre connaît ça.
Moi, je crois que, si vous voulez, le cas iranien est un peu paradoxal, puisqu'on soupçonne un État de vouloir la bombe, et on soupçonne ensuite de vouloir utiliser cette bombe qu'il aurait en quelques exemplaires, parce que ce n'est pas facile à produire, il faut la militariser, il faut faire un vecteur, etc., de menacer un État qui s'appelle en l'occurrence Israël, et qui est reconnu comme ayant à peu près 200 têtes disponibles aujourd'hui.
C'est-à-dire, quand vous dites on soupçonne, d'ailleurs, ce n'est pas seulement Israël, hein, c'est une grande partie de la communauté internationale, en tout cas des grandes puissances.
Je pense qu'effectivement Israël dispose de 200 têtes aujourd'hui. Ça veut dire que quel serait le chef d'État qui déciderait de lui-même d'utiliser une arme nucléaire pour menacer un pays qui a beaucoup plus de dispositions nucléaires que lui. Deuxième remarque, quand vous avez qu'un seul salve nucléaire à tirer, cette salve, vous l'utilisez pour sanctuariser votre propre pays. Vous ne l'utilisez pas pour agresser. Vous l'utilisez pour dire, si vous me menacez, j'utiliserai l'arme nucléaire. C'était la doctrine de dissuasion française. On ne peut pas faire semblant de ne pas l'appliquer à l'Iran aujourd'hui. Donc je pense qu'effectivement, le nucléaire iranien est l'aboutissement d'un long processus de réflexion des chefs d'État iraniens. Rappelez-vous que c'est Rafsanjani qui lance le programme. C'est celui qu'on appelle le modéré, nous, quand on fait l'analyse iranienne. Et donc, on va vers un Iran nucléaire, mais dont je prétends qu'il n'est pas menaçant par nature.
Alors, je voudrais qu'on essaie un peu d'avancer dans les missions pour essayer de comprendre pourquoi, de manière assez inattendue peut-être, mais est-ce que l'inattendu existe en matière diplomatique et en matière de défense, pourquoi est-ce que ces jours-ci, on a vu à nouveau ce dossier du nucléaire iranien qui revient régulièrement à l'affiche de l'actualité? Pourquoi est-ce que ce dossier donc, est revenu de manière aussi forte? Freddy Etten, est-ce que on peut considérer aujourd'hui, du point de vue israélien, que la menace en ce début du mois de novembre 2011 est plus importante qu'elle ne l'était, par exemple, il y a 6 mois ou il y a 1 an? Ou est-ce que c'est toujours le même niveau de menace pour Israël?
La menace, il y a un compte à rebours, c'est-à-dire que pour fabriquer une bombe, il faudrait du plutonium et il faudrait arriver à un certain degré pour enrichir donc l'uranium. Et si l'Iran est capable donc de fabriquer une bombe, et selon le problème qu'on en parle aujourd'hui, parce qu'il y a un rapport qui doit être publié, c'est l'AIEA, c'est pas Israël, ce sont des experts de 92 pays, et c'est effectivement...
Rapport dont on ignore encore pour l'instant le contenu, même s'il y a un certain nombre de fuites.
Mais je vous rappelle aussi que l'ex-secrétaire donc de l'AIEA, Baradaï, qui pour des raisons ou d'autres n'a pas divulgué, n'a pas collaboré comme il faut avec des experts internationaux et n'a pas eu, si vous voulez, l'audace de prouver par là que l'Iran se prépare à fabriquer cette bombe. Et là,
mais pourquoi est-ce que les dirigeants israéliens n'ont pas attendu la publication de ce rapport pour menacer d'une intervention militaire? Pourquoi le faire avant et pourquoi ne pas le faire après?
Mais personne n'a menacé. C'était dans des fuites de journaux, de certains journaux israéliens et d'autres. Israël ne menace pas. Le peuple iranien n'est pas notre ennemi, comprenez bien. Le peuple iranien n'est pas notre ennemi. Et nous voulons, et nous avons eu, vous avez rappelé le Shah, nous avons eu de très bonnes relations avec le Shah. Le Shah nous a fourni du pétrole. Donc il n'y a pas de problème avec l'Iran. Mais quand l'Iran veut essayer par toutes les tentatives, d'une part l'hégémonie au Proche-Orient, d'une part, d'autre part faire flotter l'étendard chiite contre les sunnites. Vous savez, nous ne sommes pas seulement effrayés. C'est le monde arabe qui est effrayé. C'est le Golfe Persique, c'est l'Arabie Saoudite qui est au premier chef menacé par la bombe iranienne et non pas Israël seulement.
Alors essayons quand même de comprendre cette séquence diplomatique. Alain Grèche, j'aimerais que vous répondiez aussi à la même question. Pourquoi envisager très sérieusement, pour ne pas reprendre le terme de menace, d'intervenir militairement, pourquoi le faire avant et pas après? Est-ce que c'est pour influencer le rapport de l'IA?
Je rappelle quand même qu'en 2003, tous les experts occidentaux, tous les politiques occidentaux prétendaient que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. C'était un mensonge. Et pourtant, beaucoup de gens y ont cru. Moi, je ne fais pas confiance à n'importe quel rapport sous prétexte qu'il a été fait par des experts occidentaux. Parce que quand on dit qui donne les informations à l'AIEA sur lesquelles elle se rapporte? Les Américains. Et les Américains sont partie prenante. Ils ne sont pas des... Et les Français. Et les Français sont partie prenante.
Enfin, je rappelle quand même que l'AIEA, c'est une agence de l'ONU. Hein.
Oui, mais ça a été la même chose pour l'Irak. Je veux dire, combien de missions des inspecteurs de l'Irak disaient « Oui, les Irakiens ne sont pas sincères avec nous. » Et les Américains ont utilisé ça pour attaquer l'Irak. Et on sait que c'était un mensonge pur et simple. Donc, encore une fois, ou bien on est dans l'idée, nous avons affaire à des nouveaux Hitler. Et je rappelle quand même que successivement, Abdel Nasser a été pour Israël un nouvel Hitler, pour les Occidentaux aussi. Ensuite, ça a été Saddam Hussein. Ensuite, tous les dirigeants qui s'opposent à eux sont des nouveaux Hitler. Alors évidemment, comme Hitler est l'incarnation du monstre, c'est tellement facile de dire « ils ne sont pas rationnels, ces gens-là ». Ils ne sont pas rationnels. Moi, je pense, comme Pierre, c'est que c'est des dirigeants qui ont une vraie rationalité, qui est la défense de leurs intérêts nationaux. Ils essayent, je ne sais pas, il y a un programme secret, j'en suis convaincu. Je pense qu'ils sont dans une posture où ils veulent être ce qu'on appelle au niveau du seuil, c'est-à-dire prêts à fabriquer l'arme nucléaire si c'est nécessaire. Mais ils ont, comme disait Pierre, bien plus de raisons de se douter de l'arme nucléaire que le général de Gaulle n'en avait en 58.
Donc si on vous suit, les menaces de sanctions, que ce soit des sanctions économiques ou des sanctions militaires, elles servent aussi d'une certaine manière le régime iranien, le confortent en tout cas dans sa volonté de se doter de l'arme nucléaire. Pierre connaît ça ?
Oui, je crois que le cas des sanctions est paradoxal du mode de fonctionnement de la communauté internationale. Rappelez-vous qu'on l'a fait sur Saddam Hussein dans le but d'arrêter ses programmes d'armes de destruction massive et on a profondément pénalisé la population irakienne. Rappelez-vous cet exemple, il est dramatique, il faut le garder à l'esprit. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sur l'Iran? À chaque fois qu'il y a une de ces phases, si vous voulez, de sanctions contre l'Iran, on élargit, on approfondit les sanctions. Ça veut dire qu'on va l'étendre aux moyens financiers, on va l'étendre à autre chose, etc. C'est-à-dire que plus on l'élargit, plus on pénalise la population iranienne. Alors que la logique simple d'un service de renseignement consiste de préférence à cibler les sanctions de façon à être sûr qu'on surveille les choses qui sont dangereusement liées au programme nucléaire, au programme balistique, au programme chimique, etc. Or, pas du tout. La communauté internationale a besoin de ces grands moments de consensus, si vous voulez, dans lesquels on dit « Regardez, on a élargi, on a approfondi les sanctions ». C'est-à-dire qu'on met en place des sanctions qui sont inutiles, parce qu'inefficaces, et qui surtout pénalisent le peuple iranien. Donc on fait la solidarité entre la population et les dirigeants. Or, c'est les dirigeants qu'on vise, c'est le programme qu'on vise. Donc il faudrait à un moment s'arrêter de vouloir absolument faire ce genre de grand-messe, en se disant, voyez, encore une fois, la communauté internationale a abouti à quelque chose d'inefficace.
Mais alors, si on part du principe qu'il faut que les sanctions soient efficaces, quelles seraient des sanctions efficaces.
Des sanctions efficaces seraient des sanctions ciblées. Un programme balistique, ça suppose un certain nombre de composantes, ça suppose un certain nombre de technologies, etc. Un programme nucléaire, ça suppose un certain nombre de technologies, de savoir-faire, etc. Mais on ne va pas faire comme on l'avait fait, rappelez-vous, avec Saddam Hussein, où on interdisait les crayons pour les écoliers parce que ça contenait du graphite qui était censé être le ralentisseur pour des centrales nucléaires, où on interdisait des médicaments alors qu'on mourait d'une grippe en Irak parce qu'on disait que ça allait servir à un programme chimique. Arrêtons ce genre de choses. Si on ne vise pas la population iranienne, regardons quels sont ses besoins. Aujourd'hui, des pièces détachées d'Airbus, les avions se cassent la figure en Iran. Pourquoi est-ce qu'on interdit de vendre des pièces détachées pour avions? Je ne comprends pas.
Alain Grèche et ensuite Frédéric Tan.
Juste un mot sur cette affaire de sanctions, parce que Pierre a dit que les sanctions ont frappé la population irakienne. Ce qui est vrai, que les dirigeants s'en sont très bien sortis, mais elles ont été plus graves que ça. Elles ont détruit l'État irakien. C'est quand les Américains entrent en Irak, l'État irakien n'existe plus et il s'effondre. Et aujourd'hui, pour reconstruire l'État irakien, après 8 ans, les Américains vont partir en disant « nous avons gagné » et on aura une guerre permanente en Irak qui est le résultat de ça. Donc finalement, je veux dire, il faut vraiment réfléchir. Rarement les interventions étrangères, je ne suis pas contre par principe, mais rarement elles donnent les résultats pour lesquels on s'est battu.
Freddy Etan, qu'est-ce que ce serait des sanctions efficaces? Et est-ce que, au-delà du fait de forcer l'Iran à renoncer à son programme nucléaire et à son programme supposé militaire, est-ce que ces sanctions pourraient aussi avoir pour objectif de, si ce n'est détruire l'État iranien, en tout cas d'obtenir un changement de régime en Iran?
Écoutez, il faut revenir un peu en arrière. Le Shah d'Iran a quitté le pouvoir en 1979. Ayatollah Khomeini, qui était là d'ailleurs hébergé en France à Neuf-le-Château, a voulu, était arrivé en mars 1979 par un avion d'Air France. Et donc tout a basculé. Tout a changé, non seulement dans le régime iranien, mais aussi dans la conception, si vous voulez, de l'islam. Parce que l'islam, l'Iran chiite, a des satellites. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas seulement il y aura une opération contre l'Iran, il y a des répercussions par ces satellites contre Israël, par exemple.
Alors les satellites, c'est quoi? C'est le Hamas, c'est le Hezbollah?
C'est le Hezbollah et le Hamas. Ça, c'est une chose, d'abord. Deuxièmement, il faut dire qu'en Irak, si on revient en arrière, il ne s'agit pas de 2003 seulement, il s'agit aussi de la bombe de la centrale nucléaire Ozirak, construite d'ailleurs par la France, qui a été détruite pour la première fois dans l'histoire contemporaine, qu'un État a détruit donc une centrale nucléaire en 32 secondes. Donc cela aussi est une frappe qui a été au moment même où l'Irak était prête à enrichir donc à un degré, un maximum de degrés, donc sa bombe atomique. Et elle a été approuvée plus tard et on se disait que pendant la première guerre du Golfe, quand des SCAD tombaient sur Israël, c'est-à-dire des SCAD, c'est-à-dire des roquettes, des fusées qui sont tombées, 40 fusées sont tombées et avec une tonne, je vous rappelle, une tonne d'explosifs dans chaque SCAD, ces SCAD ont prouvé par là que, je vous rappelle, la période dont les Israéliens se dotaient de masques à gaz à cette période-là. Et donc, on oublie tout cela très rapidement. Alors donc, et c'est pour ça que, heureusement que la bombe atomique irakienne en 1980 a été détruite et fort heureusement parce que pendant la première guerre du Golfe, on aurait pu puisqu'il y avait une coalition et vous savez ce qui s'est passé.
Donc des sanctions efficaces parce que vous ne m'avez pas répondu sur ce point.
Les sanctions efficaces, ça peut être un blocus maritime, ça peut être aussi retarder certains parce que l'Iran ne travaille pas seul dans sa production. Elle a le Pakistan, elle a la Corée du Nord, elle a la Russie. Il y a des problèmes avec la Chine et tout cela. Et tant que la Chine, par exemple, et la Russie, peut-être après ce rapport, comprendront que l'Iran s'achemine à l'option militaire uniquement et non pas à produire dans des... Et comment peut-on dire que l'Iran ne s'achemine pas, puisqu'on sait très bien, et les services de renseignement occidentaux et autres services savent très bien que ces 20 sites, contrairement à ce qu'a été aux Irak, ce site, sont aussi souterrains.
Je crois que le débat portait moins sur le fait que l'Iran cherche à se doter de cette arme que de savoir ce que voudrait ou ce que pourrait en faire ce pays. Freddy Etan, vous avez évoqué la destruction de la centrale d'Ozirak en Irak. Vous dites que ça avait pris 30 secondes. Pierre Conessa, vous qui avez travaillé au ministère de la Défense sur le plan militaire, est-ce qu'une intervention militaire en Iran pourrait avoir la même efficacité immédiate, ou bien est-ce qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus compliqué ?
Non, je ne le pense pas, parce que d'abord les pays sont plus éloignés que n'étaient aux Irak d'Israël, et d'autre part parce que évidemment il faut survoler un certain nombre de territoires et donc avoir le feu vert des Américains, comme ils l'avaient pratiqué d'ailleurs à l'époque de l'opération contre Irak, c'est-à-dire faire semblant de ne pas voir passer une attaque. D'autre part, il faut plusieurs ravitaillements en vol, et les ravitaillements en vol ne peuvent se faire qu'avec l'aide des avions américains, et donc il y a de toute façon une impossibilité pour Israël de faire seul. Les sites sont dispersés et c'est une opération à très longue distance. Il faut aller loin, il faut contourner un certain nombre de pays qui ne veulent pas être survolés, etc. Bon. Donc techniquement, ce n'est pas possible. C'est une manière de mettre les...
Mais il n'y a pas seulement l'aviation.
Frédéric, un peu plus près des micros, sinon on vous entendra pas.
Il n'y a pas seulement l'aviation dans une option militaire.
Non, mais alors si c'est une invasion terrestre, encore mieux. J'avoue que ce scénario, je ne l'avais pas envisagé. Mais moi, je voudrais simplement revenir une minute sur le paradoxe du TNP. Le TNP, si vous voulez, vous avez des États signataires.
Alors, traité de non-prolifération nucléaire.
Traité de non-prolifération nucléaire. Vous avez des États qui ont signé, donc qui renoncent à avoir l'arme nucléaire, et des États qui n'ont pas signé. Les États qui n'ont pas signé, si vous voulez, c'est à peu près comme vous avez deux conducteurs sur une autoroute qui roulent tous les deux à 200 km à l'heure. Les gendarmes les arrêtent.
Alors, dans ceux qui n'ont pas signé, il y a par exemple Israël.
Alors, ils arrêtent les premiers en disant « Ah, vous avez signé le TNP, vous avez de votre permis de conduire, donc on vous enlève 6 points, on vous enlève votre voiture et vous aurez 300 euros d'amende. » Et puis l'autre pilote qui roule à 200 km à l'heure, on lui dit « Ah, vous n'avez pas le permis de conduire parce que vous n'avez pas signé le TNP, donc vous pouvez continuer. » C'est ça le paradoxe du TNP. C'est que de fait, aujourd'hui, on a un Pakistan sur lequel on peut considérablement s'interroger parce qu'il a proliféré, parce que c'est un État faible. Et donc, on va considérer que c'est un bon proliférant. C'est la phrase de George Bush. Hein, il ne l'a pas cité parmi les axes du mal. On a Israël qui a quand même 200 têtes dans la région. On a l'Inde. On peut quand même considérer que la plus grande démocratie du monde aurait une certaine retenue. Mais ce paysage du traité de non-prolifération est un paysage très profondément déstabilisant pour la sécurité de la planète. Pas seulement le cas Iran et pas seulement le cas Israël. C'est un système qui est aujourd'hui totalement aberrant.
Freddy Etan, pour revenir à ce que vous disiez, hein, vous disiez tout à l'heure, c'est pas seulement Israël qui a peur du nucléaire iranien, ce sont aussi les autres pays de la région. Alain Grech, vous êtes d'accord avec ça ?
Écoutez, quand même, je voudrais faire une remarque à propos de qui a peur de qui, parce que vous avez parlé de la peur de la population israélienne, que je comprends. Mais la peur dans les populations arabes, elle est vis-à-vis d'Israël. Vous allez au Liban, ils ont eu 15 000 morts lors de l'invasion de 1982, 15 000 morts civiles.
Il y a eu... Et pendant la guerre civile entre...
Et alors, non,
il n'y a pas eu de guerre civile en Liban,
bien sûr,
il n'y a jamais eu de guerre civile.
Mais si, mais ça n'empêche pas qu'Israël a fait 15 000 morts, ça n'empêche pas qu'il y ait eu d'autres. Ouais. Et quand vous discutez avec des gens dans la région, pour eux, la vraie menace, ce n'est pas l'Iran. C'est vrai que les dirigeants du Golfe, qui sont quand même pas vraiment très représentatifs. Je veux dire, je pense pas que le roi d'Arabie Saoudite ou le roi de Bahreïn qui est en train d'écraser sa population, ils soient vraiment représentatifs. Que eux, ils aient peur de l'Iran, c'est une chose. Mais la population a peur. Deuxièmement, quand on dit c'est les chiites et les sunnites, je rappelle qu'en 2006, quand il y a eu la guerre du Liban entre Israël et le Hezbollah, la photo de Khomeini était partout, la photo pardon de Nasrallah était partout dans les rues du Caire, qui était où il n'y a aucune sympathie pour le chiisme. Pourquoi ? Parce qu'ils le considéraient comme s'opposant à une agression étrangère.
Enfin, on pourrait vous rétorquer que la guerre entre l'Iran et l'Irak, c'était aussi une guerre contre un pays.
Non, mais je dis.
À majorité sunnite face à un pays à majorité chiite.
Oui, donc, enfin, voilà, mais la majorité chiite des Irakiens s'est battue dans l'armée irakienne. Donc la division, ce n'était pas chiite-sunnite, c'était iranien-arabe, ce qui était un peu différent.
Freddy Etan.
Oui, il y a une nouvelle donne géopolitique aujourd'hui avec les bouleversements dans les capitales arabes. Depuis la révolte du jasmin en Tunisie, puis la Libye, l'Égypte, aujourd'hui on ne sait pas, puisqu'on parle de l'Iran, il y a des problèmes graves. En Syrie, à Damas, à Homs, un peu partout, où il y a eu plus de 3000 morts tués par les autorités syriennes, il faut le dire. Et puisqu'on parle de chiites et de sunnites, c'est des alaouites, c'est-à-dire c'est une autre branche et qui représente plus ou moins 15% de la population syrienne. Tout cela, toutes ces turbulences, il faut être dans l'esprit que ce n'est pas la situation, on ne s'achemine pas vers un procédé sur le plan stabilité de la région. Il y aura et toujours une instabilité dans la région. Alors, On ne peut pas savoir ce qui va se passer en Tunisie. Personne n'a pu prédire, et même les meilleurs services de renseignement ne peuvent pas savoir ce qui va se passer. On ne savait pas si le Hezbollah aurait gagné et serait au gouvernement libanais. On ne savait pas pour le Hamas à Gaza. Tous se sont trompés. Et on ne savait pas que Ghannouchi, en Tunisie, aurait obtenu plus de 40%. Et certains journalistes font leur mea culpa pour dire effectivement, nous nous sommes trompés concernant les choses. Et je ne parle pas seulement de la Libye, que ici Kadhafi a été reçu en grande pompe et on sait très bien comment il a terminé. Je ne dis pas la même chose pour Assad, qui ici aussi a été reçu en grande pompe, et je ne dis pas comment peut-être il va terminer. Tout cela nous montre par là qu'il y a une instabilité et nous devons donc être beaucoup plus vigilants qu'avant.
Mais alors, Freddy Etan, Israël a longtemps été présenté, et s'est longtemps présenté, comme la seule démocratie du Proche et du Moyen-Orient. Il y a eu des révolutions arabes. Alors, il y a certes le cas libyen où Kadhafi est tombé suite à une intervention militaire, mais pour le reste, il n'y a pas eu d'intervention militaire. Est-ce que le gouvernement israélien, est-ce que les dirigeants israéliens n'auraient pas avantage à essayer de faire en sorte qu'il y ait une transition démocratique en Iran, en tout cas de contribuer à cela, plutôt que d'être dans la montée de tensions qui conduit, comme on nous l'expliquait notamment à Pierre Conessa tout à l'heure, finalement, à renforcer Ahmadinejad au pouvoir en Iran.
Bon, pour Ahmadinejad ne détient pas le dossier nucléaire, d'ailleurs, il faut le dire aussi. Ce n'est pas lui qui détient, il parle beaucoup.
Il y a aussi un pouvoir religieux qui est très important en Iran.
Oui, un pouvoir religieux, tout ça. Bon, ça, c'est une chose. Mais deuxièmement, il faut dire, je voulais dire quand même, le vent de liberté qui souffle un peu dans les capitales arabes est un vent positif, dans le sens où, enfin, l'oppression, la dictature, les despotes ont été décapités. Et ça, c'est important pour le monde arabe et pour Israël aussi. Et nous apprécions, si vous voulez, tout ce vent de liberté. D'autre part, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Et quand on parle de ce Maghreb, vous savez, le fils en Algérie, des massacres, la France n'a pas fait le nécessaire et a évité des élections en Algérie parce qu'elle a cru que demain, c'est le fils, et donc ces islamistes pourraient monter au pouvoir. Donc, ce n'est pas seulement un seul pays. Il y a ici une mouvance islamique radicale. Au contraire, le monde musulman est un monde qui a non seulement une grande civilisation, et le Coran est interprété par ces islamistes parce que le culte de la mort est là. Et par un dieu méchant. Au contraire, il faut parler du culte de la vie, le culte de la coexistence, le culte qui nous dit effectivement qu'on peut arriver, qu'on peut aboutir à régler ce problème. Mais il faut mettre les extrémistes en quarantaine, qu'ils soient même des Israéliens qui sont extrémistes. Et donc, dans cette situation-là, on l'a vu pendant la période des présidentielles il y a 2 ans avec Ahmadinejad, on a vu ses opposants, on a vu comment les Kadhafi et les autres qui ont essayé de se révolter, et on a vu comment la répression que l'Occident, évidemment, est là pour dénoncer, mais comment ça a évolué. C'est ça le problème.
Il y a des contextes politiques en Israël, il y a eu un contexte politique fort en Iran. On entre dans une année extrêmement importante aussi pour la France et pour les États-Unis. Pierre connaît ça. Est-ce que les États-Unis et Barack Obama, à qui l'on reproche de ne pas avoir réussi grand-chose finalement sur la scène internationale, est-ce que Barack Obama ne va pas être tenté de, là aussi, durcir le ton contre l'Iran, même si la menace nucléaire iranienne est à peu près la même qu'il y a quelques mois, même si on commence à avoir quelques informations, là c'est une courte parenthèse émanant de l'AIEA, donc l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui dit, alors j'ai juste une dépêche rapide, l'Iran pourrait poursuivre des activités nucléaires à usage potentiellement militaire. Alors on n'est pas beaucoup plus avancé.
Écoutez, moi, l'utilisation d'un ennemi en campagne électorale, je veux dire, j'ai essayé d'écrire ce bouquin justement pour essayer de faire comprendre combien c'est utile. Bon, je prendrai l'exemple de M. Netanyahou, parce que, écoutez, on vient d'avoir l'adoption de l'entrée de la Palestine dans l'UNESCO, et on décide la reprise de la colonisation, et on ne verse pas l'argent qui est celui de l'autorité palestinienne. Quand on fait des erreurs comme ça et qu'on a les indignés à Tel Aviv, qu'est-ce qu'on fait? On se trouve un ennemi.
Donc avant même, n'oubliez pas que c'est sur Obama que je vous ai posé la question.
Attendez, je vais arriver à Obama ensuite. Quel est l'intérêt de la démarche avant même le rapport de l'AIEA de dire, regardez l'Iran, opération militaire, etc. C'est que vous mettez Obama dans un coin. Vous l'obligez à prendre position. Et évidemment, il va prendre position en disant, comment je ne peux pas abandonner mon allié.
Mais c'est très habile, ça. On
ne peut pas reprocher à M. Netanyahou de ne pas être habile. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est de jamais avoir fait la guerre, parce que sinon, il saurait ce que c'est.
Alain Grèche.
Ce qu'on peut reprocher au Congrès américain, c'est d'être un Congrès qui a la solde d'Israël de manière inimaginable.
Vous parlez là vraiment comme le lobby juif qui existe partout.
Non, c'est pas le lobby juif.
Il y a une connotation là que vous dites qui est grave.
Non, chaque fois qu'on dit ça.
Qui est grave que vous dites ça.
Non, monsieur. Le lobby pro-israélien est composé de deux factions, une fraction d'une partie de la communauté juive et une fraction beaucoup plus influente des chrétiens fondamentalistes. Donc ça n'a rien à voir avec l'idée d'un lobby juif. Le Congrès américain vient d'adopter une résolution interdisant à l'administration américaine tout contact avec l'Iran. Jamais dans l'histoire des États-Unis, même quand les États-Unis avaient des relations avec l'Allemagne hitlérienne, il y a eu une telle décision. Donc il y a effectivement une pression. Et c'est évident que le virage de M. Obama sur la question palestinienne, il est dû à des pressions internes. On peut dire que c'est normal, après tout, il veut gagner les élections. Mais non. On ne peut pas dire que ça n'existe pas.
C'est le jeu diplomatique normal quand même, Freddy Etan.
Il y a un jeu diplomatique. Vous savez, les États sont des monstres froids. Donc la raison d'État prévale à chaque fois. Il y a des intérêts et c'est normal, tout à fait, chaque pays essaie de sauvegarder ses intérêts. La question palestinienne à l'ONU, qui sera évidemment par un veto américain ou la France qui va s'abstenir, et heureusement parce que ce virement, à la dernière minute, je dirais, un coup de fil de M. Sarkozy à M. Juppé, et je vous dis que tous les ambassadeurs de France ne savaient pas que la France va voter à l'UNESCO.
Barack Obama non plus, paraît-il.
S'abstenir. Mmh. Non, et même non plus. Et ça aussi, ça montre par là un certain zigzag de la politique française dans ce domaine-là. Et donc, sur ce plan-là, une démarche unilatérale ne sert à rien. Et c'est même le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui disait, écoutez, ça va faire des problèmes financiers, y compris à l'UNESCO et dans d'autres organisations internationales.
Pierre connaît ça.
Moi, je voudrais m'élever contre un processus qui consiste à qualifier de quasi-antisémite tout individu qui critique Israël, s'il vous plaît. Non,
le mot d'antisémitisme n'a pas été prononcé.
J'ai pas dit ça. Personne n'a parlé du mot lobby juif, excepté vous. Donc, s'il vous plaît, on ne parle pas de ça.
Mais quand on dit que le Congrès américain est à la merci d'Israël, ça prouve quoi ?
C'est-à-dire quoi ? S'il vous plaît, l'UNESCO n'est pas devenu tout à coup antisémite.
Mais je parle du Congrès américain, qui a un rapport avec l'UNESCO, c'est aucun rapport.
Allez, on va essayer de terminer cette émission dans un climat un peu plus apaisé. Et pour trouver la paix, peut-être faut-il aller un peu loin dans l'histoire et dans l'histoire commune entre ces pays qui ne s'appelaient pas encore ni l'Iran ni Israël. Bonsoir Julie Gacon.
Bonsoir.
Votre contrepoint ce soir, c'est ce temps où finalement ces deux peuples s'entendaient plutôt bien.
Oui, à l'époque Moïse était mort depuis longtemps, mais on était loin encore d'entendre parler de Jésus-Christ ou de Mahomet. Nous sommes en 586 avant notre ère. Nabucodonosor, roi de Babylone, vient de détruire Jérusalem, d'incendier son temple, de déporter son roi et ses chefs. Le personnage qui viendra libérer les Juifs est Perse, et c'est même le roi des Perses, Cyrus, le premier roi des rois. Tout l'empire babylonien, Syrie et Palestine comprise, passera en son pouvoir, mais dans un certain respect des croyances et des traditions régionales, ce qui lui vaudra même d'être loué dans le livre d'Isaïe. Et c'est l'orientaliste André Dupont-Sommer qui nous le raconte en 1957.
Les Juifs suivent ces événements avec un intérêt passionné. Cyrus, ce prestigieux vainqueur, c'est pour eux l'homme providentiel. Voici donc Israël appelant de tous ses voeux le triomphe de l'Iran, l'établissement d'un empire perse. Les rapports de l'Iran avec Israël ne se limitent pas à cette action d'ordre politique. Pendant tout le temps de la domination perse, puis à l'époque hellénistique, les croyances de l'Iran exercèrent sur le judaïsme une influence indéniable. Rappelons que vers 600 avant Jésus-Christ, en Iran, avait paru l'un des plus grands réformateurs religieux de l'Antiquité, Zoroastre. D'Ahura Mazda, ou Hormuz, le dieu du ciel, il avait fait le dieu suprême et le dieu unique. Une telle doctrine monothéiste était bien faite pour attirer la sympathie des Juifs. Pour ceux-ci, Yahvé n'était-il pas, lui aussi, le dieu du ciel et le dieu unique ? Il y a plus. De même que la théologie mazdéenne avait créé la figure d'Ahriman, principe du mal et chef de tous les démons mauvais, la théologie juive a produit Satan ou Bélial, le prince des ténèbres qui tient le monde sous sa domination. Mais Satan n'apparaît qu'après l'exil. Comment échapper à la conclusion qu'Israël, sur ce point, a suivi plus ou moins l'Iran?
Et voilà, conclusion donc d'André Dupont-Sommer. Peut-être nous faudrait-il un nouveau Cyrus. Vous pourrez réécouter d'ailleurs cet entretien de 1957 en longueur sur notre site franceculture.fr. Merci infiniment à tous les trois de vous être prêtés au jeu de la discussion. Merci Freddy Etan, Pierre Conessa et Alain Grèche. C'est la fin du Grand Mood. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster. N'hésitez surtout pas à poster vos commentaires. J'espère qu'ils seront nombreux. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, à Fanny Richer, Céline Leclerc, Julie Gacon, Pierre Lepoutre, à notre réalisateur Jean-Christophe Francis. À la technique ce soir, il y avait Jacques Hubert. On se retrouve demain à 18h20.